C'est un article du Monde sur ce blog si précieux, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle « À bord de l'Aquarius ». Un article daté d'hier, signé Julia Pasquale, envoyée spéciale. Un article qui me frappe parce qu'il n'est pas question de migrants ou de réfugiés, mais de personnes. 58 personnes, en l'occurrence. C'est rare qu'on emploie ce mot-là, de personnes, aujourd'hui, quand on parle de ça. Et c'est encore plus rare qu'on essaie de savoir qui ils sont. En l'occurrence, nous dit cet article, une majorité de familles libyennes, plutôt aisées, dont cette femme d'une quarantaine d'années, les cheveux teints en blond, qui a pris la mer avec ses 5 enfants âgés de 9 à 22 ans et son frère de 24 ans qu'elle a élevé. Il y a un mois, son mari a été kidnappé à Tripoli, travaillait dans le commerce alimentaire, il avait de l'argent. On ne sait pas très bien pourquoi il a été kidnappé. C'est plus possible de vivre comme ça. C'est impossible d'avoir un passeport avec un visa. Alors elle a payé 5 à 6 000 euros pour partir sur un bateau, une barque en bois plutôt. Elle s'appelle Malak dans cet article, mais il est indiqué que les noms ont été changés, sauf celui de son chien, dont elle dit, non sans humour, qu'il n'a pas payé pour le voyage. Un gros toutou à poils blancs et frisés qui s'appelle Bella.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang 4 ans. Après le succès de Constellation Grand Prix du roman de l'Académie française et prix de la vocation, il revient avec une nouvelle traversée et il exhume des archives un point aveugle et passionnant de la Seconde Guerre mondiale, l'odyssée d'un bateau, le capitaine, avec à son bord les réprouvés de la France de Vichy et de l'Europe nazie. Bonjour Adrien Bosque.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être là. Comment vous les appelez, vous? Qui sont-ils pour vous, les passagers de l'Aquarius?
Sans démagogie, des hommes, des femmes, des nouveaux arrivants et des réfugiés.
Nous n'aimons pas qu'on nous appelle réfugiés. Ce sont les premiers mots d'un court texte d'Anna Arendt en 1943. C'est une phrase de votre livre.
Oui, lors de l'écriture du livre, en réfléchissant, en lisant, j'étais tombé sur ce texte un peu frappant et qui a une acuité comme ça assez étonnante avec notre présent. Et qui s'appelle « Nous n'aimons pas qu'on nous appelle réfugiés » et qui s'appelle « Nous, les réfugiés ». Et ce texte questionne la manière même qu'on a de nommer ceux qui arrivent et la manière dont Arendt elle-même se vivait nommée ainsi aux États-Unis.
Se trouve que vous l'avez devant les yeux.
Oui, je vous l'ai amené. Et c'est vrai qu'il est frappant, peut-être qu'on peut le lire. Tout d'abord, nous n'aimons pas que l'on nous traite de réfugiés. Nous nous baptisons « nouveaux arrivants » ou « immigrés ». Jusqu'à présent, le terme de réfugié évoquait l'idée d'un individu qui avait été contraint à chercher refuge en raison d'un acte ou d'une opinion politique. Or, s'il est vrai que nous avons dû chercher refuge, nous n'avons cependant commis aucun acte répréhensible et la plupart d'entre nous n'ont même jamais songé à professer une opinion politique extrémiste. Avec nous, ce mot « réfugié » a changé de sens. On appelle de nos jours réfugiés ceux qui ont le malheur de débarquer dans un nouveau pays complètement démuni et qui ont dû recourir à l'aide de comités de réfugiés. Certes, nous étions des immigrants ou de nouveaux arrivants qui avions abandonné notre pays parce qu'un beau jour, il ne nous convenait plus, voire pour des motifs purement économiques. Nous voulions refaire nos vies, un point c'est tout. Or cela suppose une certaine force et une bonne dose d'optimisme. Nous sommes donc optimistes. En fait, cet optimisme est vraiment quelque chose d'admirable, même si c'est nous qui l'affirmons. L'histoire de notre lutte est désormais connue. Nous avons perdu notre foyer, c'est-à-dire la familiarité de notre vie quotidienne. Nous avons perdu notre profession, c'est-à-dire l'assurance d'être de quelque utilité en ce monde. Nous avons perdu notre langue maternelle, c'est-à-dire nos réactions naturelles, la simplicité des gestes et l'expression spontanée de nos sentiments.
We refugees, nous autres réfugiés. Anna Arendt en 1943, Adrien Bosque, c'est assez passionnant parce qu'on croirait vraiment lire un texte d'aujourd'hui, là.
Oui, sans le tordre, sans avoir besoin d'enlever le contexte qui est celui des exilés allemands et des suites d'exil, puisque premier exil à Paris pour la plupart de ces hommes en fuite, puis aux États-Unis ou dans d'autres pays, que ce soit au Mexique pour les communistes ou les socialistes, mais ce que l'on voit, c'est l'invariance, c'est la continuité de la douleur de l'exil, de la continuité de ces mêmes sentiments que partagent des immigrants d'hier comme d'aujourd'hui. Et je crois que il faut parfois se méfier des comparaisons parce qu'elles nous dédouanent de comprendre vraiment le présent, mais il ne s'agit pas de calquer, de regarder des photos de bateaux et de mettre une autre photo à côté, mais par contre d'écouter la pensée telle qu'elle s'écrit à travers Arendt pour y voir en tout cas une récurrence sur ce sentiment profond de l'exil.
Et notamment cette question de l'impossibilité de nommer le réfugié, dans quelle mesure pour vous est-ce que c'est précisément là, dans cet informulable, que naît la littérature ?
C'est dans l'informulable, c'est dans, comme vous l'avez nommé tout à l'heure à propos de cette histoire, le point aveugle, c'est-à-dire sur ces moments où seul l'écrit peut s'engouffrer. Seul l'écrit peut essayer de contourner en tout cas soit l'absence, soit la caricature. La caricature dans le cas de ces mots qui servent à nommer, que l'on dise migrant, que l'on dise immigré, que l'on dise arrivant, de quelle manière ces mots enferment, de quelle manière ces mots résument et d'une certaine manière enlèvent toute individualité, enlèvent toute singularité au trajet. Et je crois que l'écrit peut être là pour contourner, d'abord dans sa manière de nommer, essayer de trouver le mot juste, d'essayer à tâtons, et en même temps, en racontant ses destins individuels, en redonnant voix à ses destins, de montrer à quel point il s'agit aussi de destins en tout point comparables à ce que nous aurions pu vivre ou ce que nous avons vécu.
Mais cet écho, ce parallèle, ce point d'accroche entre les sorts des passagers de l'Aquarius aujourd'hui et ceux du capitaine, ce navire qui quitte le port de Marseille en 1941 et dont vous racontez l'Odyssée, mais vous ne l'aviez pas du tout anticipé.
Non, bien heureusement, et il ne s'agit pas de là venir comme ça calquer effectivement ces deux trajets, sinon que je travaillais et j'avais le souhait en tout cas de travailler sur une forme de cycle, de trois traversées. Ce capitaine Paul Lemerle en est le volet central. Il s'agissait de rediscuter, de se balader à nouveau dans le siècle en partant de l'immédiat après-guerre, ce qui était Constellation, de remonter dans un chemin inverse, à rebours, vers 41, puis vers l'avant-guerre, l'immédiat avant-guerre avec la guerre d'Espagne, et à travers une série de traversées, parce que ce n'était pas que le moyen de locomotion, il ne s'agit pas de décrire uniquement, si vous voulez, le bateau, l'avion, même s'ils sont des symboles de l'époque à chaque fois, ne serait-ce que dans ces avancées techniques, mais aussi parce qu'il s'agit à chaque fois, dans son huis clos historique, dans 250 personnes parquées sur le pont d'un bateau, d'une forme de sondage, d'une forme comme ça de précipité d'un monde qui est comme un sondage au sens géologique. On y voit trace de notre passé et avec toute la complexité, puisque ces destins sont tout à fait différents, les raisons de l'exil sont à chaque fois différents. Comme Arendt signale, certains sont partis sont des émigrés dits économiques, et sur ce bateau, évidemment qu'il n'y a pas que des réprouvés, il y a aussi des émigrés économiques qui d'ailleurs se mettent dans un coin du bateau de nantis et qu'on finit par appeler les Champs-Élysées. D'autres sont des réprouvés de la France de Vichy, d'autres sont des exilés espagnols, d'autres sont des apatrides, de la même manière que sur cet Aquarius, effectivement, vous racontiez ce destin de cette femme libyenne, il s'y trouve évidemment des Syriens et d'autres passagers dont il serait difficile de présumer de la nationalité.
Votre intérêt pour cette histoire, pour ce bateau, le capitaine, je crois qu'il est né d'une photographie, Adrien Bosque.
Oui, j'avais, si vous voulez, un intérêt particulier pour le Marseille des années 40. Je trouve un moment très particulier dans l'histoire de notre pays parce que d'un coup, par les aléas de l'agonie, se trouvent réunis dans une même ville, ville un peu étonnante que j'aime beaucoup, qui est un peu de mon coin, que je connais, dont je connais un peu l'odeur et la, si vous voulez, ce qui compose ce monde-là, se trouve réuni ce que la culture, ce que le monde, l'Europe de cette époque comportait, en tout cas de plus beau, de plus fort, de précieux.
Et alors, il y avait une photo.
Et dans ces livres se trouvait effectivement une photo sur le pont d'un bateau, photo d'un anonyme, et réunie sur le pont d'un bateau, une photo de groupe au début de la traversée, et on y voit... en tout cas, quand on connaît un petit peu, on reconnaît à l'extrême gauche Victor Serge, le révolutionnaire et écrivain. Et puis juste à côté, la femme d'André Breton, Jacqueline Lamba. Puis, comme ça, si on regarde, on voit une tête qui dépasse, très belle. Et c'est Wilfred Olam, le peintre. Et puis un enfant qui se balade. Alors lui, on ne sait pas qui c'est, sinon peut-être un enfant de ces républicains espagnols. Et puis voilà, on est confronté à cette photo, on en connaît quelques noms, mais on a envie d'animer ces visages.
En vous entendant, on entend aussi, Adrien Bosque, votre démarche d'écrivain, ces photos, ces objets, ces archives, ces documents, ils sont au cœur de ce que vous faites, de votre façon d'écrire, j'ai l'impression, et vous ne cessez d'ailleurs de vous interroger sur leur statut, le statut de ces objets. Alors je vous pose la question, c'est quoi une image pour vous ?
C'est compliqué. Dans le cas, une image, c'est une forme de représentation, c'est une forme arrêtée, comme ça, une sorte de saisie dans le temps. On sait que Barthes en parle très bien, en tout cas dans la photographie, cette photographie, le ça a été. On a l'impression comme ça d'une, en tout cas d'une preuve, mais au-delà d'une preuve, d'une image troublante, non tracée qui est projetée. Moi, je me rappelle, enfant, on avait les... Mon père collectionnait les vieux appareils. Vous savez, ces appareils où on peut passer des plaques de verre. Et sur ces plaques de verre, c'est une sorte de relief. Vous avez les photos comme ça en relief. Et il y avait toujours cette... On vous passe l'arrière-grand-père ou l'arrière-grand-mère et vous avez l'impression comme ça qu'on peut les saisir de la main. Et évidemment, tout ça est très éloigné tout en étant très proche. Et c'est ça qu'offre l'image d'emblée. C'est cet éloignement, cet exotisme du passé et en même temps cette extrême proximité du visage. Les deux alliés... on a envie, en tout cas, de nous compléter la chose par l'écrit. Et ce livre est né de ce point aveugle. Qu'est-ce que c'est qu'une traversée ? 30 jours et 30 jours sans images, dans un siècle d'images. Et donc, de ce point aveugle, de se dire, on part de cette chambre noire, un peu comme ces enfants qui se réveillent en pleine nuit, un peu terrifiés, et marchent à tâtons, cabotent de meuble en meuble jusqu'à l'interrupteur. Et puis peut-être un jour, on aura toutes les images et la pièce s'éclairera. Alors si on les a pas, on les fabriquera.
Celle qui n'a pas d'image dans cette émission, mais qui est sage comme une image, vous la connaissez évidemment, c'est la culture, Adrien, et son actualité pleine de faux-semblants. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 27 septembre ?
Tout le monde parle de l'Europe ! Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus.
L'Europe à la page à l'occasion de sa 39e édition du 15 au 18 mars prochain. Le Salon du Livre, désormais Livre Paris, a décidé d'innover. Plutôt que de mettre à l'honneur un pays, comme d'habitude, la manifestation va mettre en avant la littérature d'un continent tout entier, l'Europe. Une décision hautement symbolique, alors que le Salon se tiendra quelques jours seulement avant la sortie du Royaume-Uni, prévue pour le 29 mars normalement, et les élections au Parlement européen qui se dérouleront en mai. Restons soudés. Et la ville de Lille accueille la première édition du festival Ciné-Comédie. Pour revenir sur 90 ans de rire sur grand écran, l'événement s'est choisi Pierre Richard comme parrain et lui consacre une belle rétrospective à outre-temps fort. Un flash mob spécial Rabbi Jacob, place de la République, la projection en plein air de Bienvenue chez les Ch'tis et une expo Gaumont au palais Riourt, que du lourd. Farmer de gloire, plus de doute maintenant, l'inénarrable Mylène est bien de retour. La diva rousse et goth vient d'annoncer non pas un, non pas deux, non pas trois, mais bien 10 concerts à la Défense Arena. Tout simplement la plus grande salle d'Europe avec ses 40 000 places. À 57 ans, l'icône va sortir Désobéissance, son 11e album dès demain. Sans contrefaçon, passion.
J'ai beaucoup aimé la vie, mais ce qu'il y a de bien dans la vie, c'est qu'elle s'achève. Heureusement, nous mourons, le monde est beau. Parce qu'il s'achève.
Il disait malgré tout que cette vie fut belle. C'est aujourd'hui que sort en librairie le tome 2 des œuvres de Jean d'Ormesson dans la Pléiade, disparu en décembre dernier. L'immortel au charme inoubliable fut en 2015 l'un des seuls écrivains à intégrer la mythique collection Gallimard de son vivant. Aujourd'hui, l'ouvrage de 1632 pages réunit 6 textes romanesques et autobiographiques, dont La douane de mer. C'est une chose étrange à la fin que le monde, et je dirais malgré tout que cette vie fut belle. Le jeune éditeur et écrivain Adrien Bosque, invité de Boomerang ce matin pour Capitaine. On en parlait, l'étonnante odyssée d'un bateau qui de Marseille va traverser l'Atlantique jusqu'aux Antilles. C'était déjà une histoire de traversée que vous racontiez dans Constellation. Vous l'avez dit, quel motif littéraire est-ce que c'est pour vous, la traversée ?
La traversée, c'est en soi le motif littéraire, en tout cas pour moi, qui a une forme d'exigence par la temporalité. Elle est d'abord un temps qui est celui du roman, le temps de cette traversée qui est mesurable, mais qui peut aussi être un temps dramatique, un temps romanesque. C'est aussi le huis clos, ce qu'il représente, et d'autant plus dans un bateau où c'est une succession comme ça de tableaux immobiles, à la fois d'une avancée, mais d'une avancée lente, d'autant plus sur cette bassine rouillée, sur ce...
C'est la question du mouvement. C'est assez passionnant. Comment on fait d'ailleurs pour introduire le mouvement au sein d'un livre comme
c'est,
Capitaine?
C'est toute la, c'est vraiment ce qui est au cœur du, de ce cycle de traversée. C'est comment adapter, si vous voulez, l'armature narrative d'un roman à son moyen de locomotion.
Oui.
Sans singer, sans évidemment qu'on pourrait, comme Butor, sur la modification, en tout cas avoir ces bruits du rail qu'on essaye de singer ou de moins de travailler avec dans l'écriture. Dans Constellation, il y avait cette volonté comme ça de rapidité, presque de d'aérodynamie en un sens. Là, être confronté à cette longue traversée, ce périple, cette odyssée, c'est aussi évidemment, à travers le journal de bord, à travers une forme de journal de bord qui, pour moi, ce n'était pas le mot qui revenait. Évidemment, la facilité de se dire c'est un journal de bord, mais c'était surtout une forme de calendrier de l'Avent. Derrière chaque image, derrière chaque date, en fait, comme dans un calendrier, se trouvait une image, se trouvait un paysage qu'on pouvait ouvrir. C'était une sorte de succession de tableaux. Et ça, cette succession de tableaux, c'est ce que je... essayer de vous dire à travers le mouvement immobile. Pour moi, une traversée, c'est ça, c'est une succession de tableaux. Et c'est d'ailleurs ce que dit Lévi-Strauss dans Triste Tropique lorsqu'il décrit ce fameux coucher de soleil.
Ce qu'il faut dire, Adrien Beau, c'est qu'à bord de ce bateau, il n'y avait pas n'importe qui. Il y avait André Breton et sa femme, il y avait aussi cet anthropologue, Claude Lévi-Strauss, et c'est sa voix que vous avez choisi de nous faire entendre ce matin.
Je me suis trouvé envoyé sur la ligne Maginot, à la frontière belgo-luxembourgeoise, à un endroit où d'ailleurs il n'y avait aucune troupe anglaise à ce moment-là, mais où on pensait qu'il pourrait y en avoir. Et j'étais là pour les accueillir, mais je n'avais strictement rien à faire. Je crois bien que c'est à ce moment-là, enfin un jour, où j'étais étendu dans l'herbe et où je regardais des fleurs et notamment une boule de pissenlit, que je suis devenu ce que je ne savais pas encore s'appeler structuraliste en pensant aux lois d'organisation qui devaient nécessairement présider à un agencement aussi complexe, harmonieux et subtil que celui que je contemplais et dont je n'arrivais pas à m'imaginer qu'il pût résulter d'une suite de hasards accumulés.
Claude Lévi-Strauss en 1972, Adrien Bosque et sa leçon du pissenlit que vous avez voulu entendre. Pourquoi cette archive?
Oh, elle est absolument merveilleuse. J'ai dû l'écouter plusieurs fois. Alors, on a eu besoin de revenir sur cette syntaxe parfaite et la mienne si maladroite.
Mais pourtant, vous en sortez bien.
Mais sinon, que c'est extrêmement beau de se rendre compte qu'effectivement, l'intuition, sans qu'il soit... tant que, on ait besoin d'imaginer davantage qu'une forme d'eureka comme ça. Il ne s'agit pas non plus pour Claude Lévi-Strauss de montrer que le structuralisme est né dans un champ d'herbe, mais de dire que c'est aussi ce côté presque champêtre que j'aime dans cette archive et qui est à l'image presque de la route des Flandres de Claude Simon sur le brin d'herbe. On touche à quelque chose de très précieux dans ce contact aussi proche à l'agencement, à la perfection naturelle, à la perfection de parfois des fleurs, parfois des herbes. Et c'est aussi, c'est ce que j'aime dans cette archive, le récit d'un Claude Lévi-Strauss qui n'est pas le Lévi-Strauss que l'on connaît, qui est le Lévi-Strauss d'avant Lévi-Strauss, qui est ce Claude qui d'abord vit cette drôle de guerre, puis prend ce bateau, mais qui est structuraliste, comme il le dit, sans le savoir, qui commence son travail. Et c'est justement cet exil qui l'amènera à être le Claude Lévi-Strauss structuraliste qui rencontre Jacobson et qui, à New York, écrit les structures élémentaires de la parenté.
Vous aussi, Adrien Bosque, dans l'épilogue de votre livre, vous tirez un enseignement, une leçon, non pas à partir de l'observatoire, de l'observation d'un pissenlit, mais à partir de la lecture du secret de la licorne de Hergé. Il faut nous expliquer quand même qu'est-ce que c'est que la leçon de la licorne pour vous, parce qu'on veut savoir.
Ah, c'est. Je pense qu'écrivant ce livre, le sujet peut nous apparaître très lointain, peut nous apparaître, comme je le disais, une sorte d'exotisme du temps. Et peut-être que cette histoire d'exil n'est pas la nôtre. Et puis, peu à peu, on l'écrit, on se rend compte qu'on y passe 4 années d'obsession et que ça n'est pas pour rien. Elle a quelque chose qui nous traverse et qui a à voir à un profond sentiment. Et dans mon cas, je sentais que finalement, ce qui revenait toujours, c'était une leçon enfantine, une imagerie enfantine. Tout à l'heure, j'ai parlé de calendrier de l'Avent, mais de jeux de loi. C'était des choses comme ça qui me traversaient, et jusque dans la pensée de ma fratrie, si vous voulez. Et à la fin du livre, c'est aussi cet imaginaire de cartoon, de bande dessinée qui revenait, parce que cette leçon de la licorne, c'est cette idée que on peut faire le tour du monde, on peut se construire un sous-marin en forme de requin, on peut partir en quête d'un trésor, mais le trésor, il est toujours au bout du chemin. Il est toujours dans les sous-sols de Moulinsart en appuyant sur un globe. Il n'est pas bien loin.
Ça convoque quelque chose qui est très important chez vous, j'ai l'impression, c'est cet univers de l'enfance. Quel genre d'enfant est-ce que vous étiez, vous, Adrien Bosque ?
Je pense que j'étais un enfant un peu turbulent, pas très... pas tellement l'adulte que je suis devenu, où je pense que j'ai une sorte de, l'enfant détesterait l'adulte que je suis devenu, et inversement, l'adulte regarde avec sans doute un peu de dédain l'enfant que j'étais.
Mais de dédain carrément.
Oh, je sais pas, j'en rajoute. Mais sinon, j'étais surtout dans une forme de, et j'essaye de transmettre ça dans ce livre-là, d'amitié fraternelle. C'est ce que je garde de mon enfance, c'est une enfance à la campagne, une enfance avec des frères, avec une sœur et beaucoup d'enfants et des jeux et une obsession collective de la ruine et d'aller comme ça se balader dans des endroits abandonnés. On avait cette propension, mais du moins ce côté un peu vagabond à aller comme ça là où ça semblait interdit.
Quel genre d'aventurier, d'explorateur est-ce que c'est, au fond, un écrivain pour vous ?
Ça dépend. Je pense qu'il y a différentes formes d'explorateurs, d'aventuriers. Il y a des sous-genres, si vous voulez, aux aventures. Mais dans mon cas, ce sont des obsessionnels.
Alors on va reparler d'obsession, d'aventure, d'écriture, juste après l'exploration.
I was toting my pack along the dusty Winnemucca road when along came a semi with a high and canvas covered load. If you're going to Winnemucca, Mac, with me you can ride. And so I climbed into the cab and then I settled down inside. He asked me if I'd seen a road with so much dust and sand. And I said, listen, I've traveled every road in this here land. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man. I breathe the mountain air, man. Of travel I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Reno, Chicago, Fargo, Minnesota, Buffalo, Toronto, Winslow, Sarasota, Wichita, Tulsa, Ottawa, Oklahoma, Tampa, Panama, Mattawa, La Paloma, Bangor, Baltimore, Salvador, Amarillo, Tocopilla, Barranquilla, and Padilla. I'm a killer. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man. I breathe the mountain air, man. The travel I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Boston, Charleston, Dayton, Louisiana, Washington, Houston, Kingston, Texas, County, Monterey, Faraday, Santa Fe, Tallapoosa, Glen Rock, Black Rock, Little Rock, Oskaloosa, Tennessee, Chicopee, Spirit Lake, Grand Lake, Devil's Lake, Crater Lake, Deep Lake. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man. I breathe the mountain air, man. Of travel I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Louisville, Nashville, Knoxville, Ombabaka, Shepherdville, Jacksonville, Waterville, Costa Rica, Pittsfield, Springfield, Bakersfield, Shreveport, Hackensack, Cadillac, Fond du Lac, Davenport, Idaho, Jellicoe, Argentina, Diamantina, Pasadena, Catalina, Sea, Guatemala. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man. I breathe the mountain air, man. Of travel I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Pittsburgh, Parkersburg, Gravelburg, Colorado, Ellensburg, Rexburg, Vicksburg, Eldorado, Larimore, Atmore, Havistaw, Chattanooga, Chaska, Nebraska, Alaska, Opelika, Baraboo, Waterloo, Kalamazoo, Kansas City, Sioux City, Cedar City, Dodge City, what a pity. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Comme Johnny Cash qui chantait I've been everywhere, on est quelque part ici, entre le capitaine Haddock et le Boy Scout, hein, ni tonnerre de Brest, moule à gaufre, ou Bachibouzouk, on est sur une douceur. Le cheveu noir, l'œil bleu, le teint pâle d'un libraire rêveur et débonnaire, vous savez, dans une petite boutique pleine à craquer de livres en tout genre et de tous âges, qui sent l'antimite, la poussière et l'encaustique. Le voilà qui lève les yeux avec sa loupe, avec laquelle il examine un parchemin du XIIIe siècle et vous dit bonjour, avec son petit pull bleu marine et sa chemise très bien ficelée. Adrien Bosque, invité de Boomerang ce matin pour Capitaine, ce roman odyssée d'un équipage d'hommes et de femmes fuyant la France de Vichy et une Europe en flammes, pour la plupart, de la Méditerranée aux Antilles. Et votre livre, Adrien, s'ouvre par un préambule des plus intrigants, une phrase que je vais vous lire. Nous ne saurions connaître le goût des ananas par la relation des voyageurs. Et cette phrase, j'ai l'impression que c'est la clé de votre livre.
Ah oui, vous avez raison, c'est de bout en bout la clé. Vous savez, il y a très beau livre de Jean Giono qui, comme ça, le roi sans divertissement, qui se clôt, un roi sans divertissement est un homme plein de misère, et qui comme ça, raconte tout du livre. Eh bien, de la même manière, nous ne pouvons connaître le goût de la nana par le récit des voyageurs, dit tout, en tout cas, peut-être du sens que l'on peut convoquer pour le roman, du sens de la mémoire, et c'est pour ça qu'il se trouve en préambule comme une clé, à la fois par cette image dont on a parlé tout à l'heure, cette image et l'absence, oui, le point aveugle, mais aussi à ce moment très précis, cette citation de Leibniz, qui est un moment précis de l'histoire, effectivement, les grandes traversées et de ces fruits qui ne reviennent pas, dont on parle. Est-ce qu'on peut en donner le goût? Est-ce qu'on peut en donner la saveur? Évidemment non. Est-ce que l'écrit là est dans une forme d'infirmité ou est-ce que le roman est là pour non pas être le lieu de l'histoire, le lieu de l'exhaustivité, si vous voulez, de la vérité, mais la vérité se trouverait plutôt dans la sensation. Est-ce qu'on a réussi à rendre vivant? Est-ce qu'on a réussi à vous donner le goût de la nana et pour une traversée un peu du mal de terre?
Vous qui êtes un grand lecteur, puisqu'en plus d'être écrivain, vous êtes éditeur aussi, Adrien Bosque, que pensez-vous que les livres vous aient appris à connaître, à savoir?
Moi, les livres m'ont appris à différencier, m'ont appris à regarder le monde de manière non pas plus complexe parce que d'un coup il serait plus obscur, mais non justement parce qu'il à comprendre que le monde est fait de zones grises, le monde est fait de complexité, d'humains trop humains, et que les personnages dans les romans incarnent ça, incarnent des combats qui ne sont jamais faits d'un bloc. Et c'est cette subtilité que parfois le reste du monde nous empêche de penser, où on essaierait de raconter le monde par caricature ou par manichéisme, là où le roman n'est fait que de, en tout cas je le crois, de tentatives de rendre toute la complexité au monde.
Les vérités vivent de documents sans preuve, infimes détails, dates, noms, elles disparaissent, s'éteignent, pire, d'autres rapports les déguisent et les étouffent, l'emporte alors l'administration de la peur, bureaucrate et consciencieuse. C'est un extrait de votre livre, Capitaine, page 304. Et on y revient toujours, en fait, les vérités, Adrien Bosque, surtout le poids de l'histoire officielle. J'ai l'impression que vous parlez d'aujourd'hui, là encore, quand vous écrivez l'administration de la peur.
Oui, sans doute un écho. Ce que j'y vois, c'est aussi... réellement, la bureaucratie de la peur, la paperasserie de la paperasserie de l'exil aussi, ce que ces réfugiés sont confrontés d'abord et avant tout à ça. Parmi ces passagers, on peut citer une autre qui est Anna Segers, la grande écrivain allemand, et elle a écrit ce livre merveilleux, Transit, qui raconte ce moment à Marseille où il faut réunir les papiers, il faut réunir les visas, qu'un visa ne suffit pas, il faut un visa de transit, et de transit en transit, et quand on a obtenu son visa de transit, l'autre est périmé. Et il y avait cette boutade parmi les réfugiés qui était de dire, si Christophe Colomb avait dû réunir autant de papiers pour traverser l'Atlantique, sans doute n'aurait-il jamais découvert l'Amérique.
Vous avez écrit un texte pour conclure cette émission, un texte que vous avez intitulé « Cap au pire ». On vous écoute.
Notre président Emmanuel Macron dit « L'humanisme, ce n'est pas les bons sentiments. Les bons sentiments faciles sont sans lendemain et si je le suivais, cette voie, elle ferait basculer le pays vers les extrêmes. Ce n'est pas tant que l'on utilise une même rhétorique éculée, un même effet de manche, qui nous désespère. Opposer une posture de sévère intransigeance, de conduite rigoureuse, à un angélisme béat, forcément hypocrite, aveugle, inconséquent, et même dans une inversion si caractéristique du temps, criminel. Non, ce n'est pas tant ça, que les mots employés ne soient jamais assez forts pour discréditer le secours, l'hospitalité, l'accueil. Non, de ceci, on a soupé aussi. Ce n'est pas non plus qu'un navire dont la mission, le devoir ancestral, règle maritime qui ne peut souffrir d'aucune contestation, toute personne en danger ou en situation de détresse en mer est censée être secourue et autorisée à débarquer dans un lieu sûr, et qui pallie à la défaillance des États depuis 2016, sauvant 29 523 personnes d'une mort certaine, se voit dégradée de son pavillon une deuxième fois, condamnée à un devenir pirate. C'est dire si la valeur et le sens des mots peuvent être tordus dans une société où sauver des vies devient illégitime et condamnable, comme l'écrit Didier Fassin. Ce qui nous désespère, c'est qu'il faille tenir pour aiguillon les extrêmes, et d'ailleurs lesquels ? Populisme grande gueule, guignolesque, qui tape sur la table, rudoie, élève si haut le menton pour cacher qu'ils sont doubles, triples, vous crache au visage, menace, insulte chaque jour un peu plus ce que nous avons de plus précieux, une manière de se tenir dans ce monde, collectivement, non pas contre, mais avec. À l'inverse, que les crises écologiques, migratoires, et cela sans candeur, puissent être entendues comme l'opportunité d'un idéal réaliste, et non pas se refuser à saisir l'opportunité d'un autre horizon, parce que nous n'aurions eu de cesse que de faire cap au pire. De sorte qu'il faudrait en revenir au conseil avisé du professeur de notre président, Paul Ricoeur, qui, considérant l'hospitalité au fondement de toute éthique, a pensé notre présent au regard de notre passé, remédiant à notre mémoire qui ne porte plus en elle le souvenir des grandes migrations, d'avoir été soi-même étranger. Si nous avons à faire mémoire d'avoir été, d'être toujours étranger, c'est dans un seul but, retrouver le chemin de l'hospitalité.
Merci. Adrien Bosque, de faire revivre ces phrases aussi de Ricoeur. Merci d'être venu faire un tour dans cette émission Capitaine. C'est publié chez Stock. C'est une lecture des plus instructives que je vous conseille fortement. Je rappelle que vous sillonnez la France entière à la rencontre de vos lecteurs. Vous serez notamment dimanche à la librairie Mola à Bordeaux.
Vendredi,
décidément. Puis au Havre, à Brest, Toulouse ou encore Biarritz. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de France Inter. Et tout de suite, les médias. Sonia De Villers, juste après ça. Etienne Dao sur France Inter, et c'est l'heure de Sonia De Villers. Les médias,
l'instant.
Salut,
à demain.
À demain.